C'est la quatrième cinq.
C'est la quatrième cinq de la formation.
Classe Média.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes la classe média du collège Gaston Doumergue. Aujourd'hui, on va vous présenter
deux interviews de deux journalistes de France 3,
Laurent Baumel et Sylvain Jaeger.
C'est parti!
Bonjour, merci d'être là aujourd'hui au collège. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Laurent Baumel, je suis journaliste, j'ai 57 ans. Je suis journaliste depuis, je l'ai dit tout à l'heure, 1989. Je suis journaliste à France 3 Occitanie, à Montpellier. Et j'ai travaillé quasiment la majeure partie de ma vie dans la presse audiovisuelle, un peu en presse écrite et beaucoup en radio au tout début, à France Inter. J'ai commencé ma carrière à la radio à France Inter. Voilà, et j'ai exercé ce métier sous différentes formes, et voilà, depuis 35 ans maintenant.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Jaeger, je suis moi aussi journaliste depuis à peu près la même époque. Moi, j'ai commencé en 88, j'ai commencé un peu en presse écrite, après j'ai fait de la radio aussi à France Inter un petit peu, et puis après je suis allé à France 3 pendant tout le restant de ma carrière. Où j'ai occupé plusieurs postes, à la fois comme journaliste, comme grand reporter, comme rédacteur en chef adjoint et comme rédacteur en chef.
Qu'aimez-vous dans votre métier ?
Je ne sais pas, moi, la diversité, le fait d'être là aujourd'hui devant vous, c'est ça, c'est tous les jours c'est différent. Et puis de coller à l'histoire de... on raconte parfois la grande histoire, mais parfois la petite histoire, c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Et puis de rencontrer des gens, d'aller au contact de la population, de gens connus, de gens pas connus, mais je crois que c'est pas un métier monotone.
Pourquoi faites-vous ce métier ? Vous avez une raison principale de le faire ou non ?
Alors au tout début, je pense, c'est parce que j'avais envie de me promener. Je voulais pas être derrière un bureau, pour faire simple. Mais non, mais je pense que c'était l'envie de raconter l'époque dans laquelle je vivais, oui. J'étais curieux. J'aimais lire des médias déjà très tôt. J'étais pas un grand lecteur, hein, j'étais pas non plus, je lisais pas des romans, voilà. Mais j'aimais la presse. J'ai toujours aimé la presse. Et la façon dont les journalistes rapportaient ou les écrivains, parce qu'il y avait des écrivains journalistes, et comment ils rapportaient les faits. Voilà, et je crois que sinon c'était un métier qui... J'ai toujours voulu faire ce métier, j'ai pas eu trop d'hésitation.
Avez-vous déjà interviewé une personne connue ou quelqu'un d'insolite ?
Alors, bah oui, parce qu'on est toujours amené à interroger des personnes connues. Alors ça dépend un peu ce qu'on appelle connu. Quand on est en région, bah on a des gens connus dans la région. On a l'occasion d'interviewer d'autres personnes. Alors moi j'ai interviewé par exemple Michel Platini. Alors maintenant ça dit plus grand-chose à quelqu'un ici, mais à l'époque, c'était un des plus grands joueurs mondiaux de football. Et voilà, j'ai interviewé des présidents, j'ai interviewé des ministres. Mais en fait, souvent, ce n'est pas les plus intéressants. Parce que vous êtes le millième à lui poser des questions. Donc, il connaît toutes les réponses. Il n'y a jamais d'étonnement, ou très rarement. Et donc, très souvent, le plus intéressant dans le travail... c'est d'interviewer des gens comme vous et moi qui ont des choses à raconter qu'on ne sait pas, qu'on n'attend pas, qu'on n'imagine pas. Et j'ai plus eu de plaisir à interviewer des gens communs que des gens très connus.
Alors, je n'ai pas rencontré Michel Platini. Enfin, je l'ai croisé, mais je n'ai jamais interviewé. Bien sûr, des sportifs connus. Ça va de Zidane, puisque Zidane, vous connaissez.
Oui.
Voilà, des footballeurs, des nageurs aussi. Léon Marchand, dont on parle beaucoup. Je l'ai rencontré avant qu'il ne soit... quadruple médaille olympique, des hommes politiques, des présidents, des repris de justice aussi. Mais comme dit Sylvain, je rejoins, c'est vrai que les personnalités connues, il y a des agents, enfin, notamment je parle des sportifs, tout est encadré, donc c'est très on n'a jamais de grosses surprises. Et effectivement, avec des gens moins connus, il y a des sujets moi, qui m'ont vachement, qui me meuvent beaucoup plus. Récemment, j'ai fait un sujet sur l'abbaye d'Aniane, qui était un ancien, ce qu'on appelait bagne pour enfants. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il a fermé en 1994. Et c'était surtout, à la fin, c'était plus un lycée où on permettait à des têtes, un peu les têtes brûlées, on leur permettait de faire des études, d'avoir une formation. Et donc mais on les redressait un petit peu. Un petit peu, beaucoup même. Et moi, j'ai rencontré une des dernières personnes qui est passée entre les mains de ces murs et entre les mains de ces éducateurs. c'était très poignant. C'est un monsieur qui avait 70 ans. C'était quelqu'un qui a eu une vie très difficile. Et franchement, je suis ressorti de là, j'étais un peu bouleversé. D'autant plus que j'avais lu juste avant le livre d'un confrère qui s'appelle Serge Chalandon. Et Serge Chalandon a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'Enragé. Ça se parle des bagnes pour enfants, mais avant-guerre. Ça se passait à Belle-Île-en-Mer, sur une île au large de la Bretagne, où on y enfermait des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes. Et c'est une très belle histoire, dure, mais c'est toute une époque, quoi. Et voilà. Donc, non, comme dit Sylvain, je pense qu'on prend autant de plaisir. Alors, oui, on est content d'interview. Quand j'ai eu la première fois où j'ai eu Zidane en face de moi, j'étais content. Je n'étais pas tout seul. Hein, c'était un peu comme le même principe, cette conférence de presse. Parce que voilà, j'aime le sport, j'aime le football, et que le joueur m'a toujours séduit. Mais je l'ai fait, mais c'est pas mes meilleurs souvenirs.
Moi, je peux même vous raconter une petite anecdote sur Platini. Il se trouve que j'étais au bord du terrain, et puis il était en train d'entrer dans le terrain, ou même un peu avant, je me souviens plus exactement, j'étais très jeune à l'époque. Et puis il était grognon, c'est-à-dire il tirait la tronche tout le temps, c'est-à-dire il était vraiment de très très mauvaise humeur et pas du tout agréable. Et puis donc, moi j'étais un peu impressionné, puis j'étais jeune et à l'époque c'était déjà une star absolue. Et puis je me souviens, je demande au caméraman de commencer à filmer, et au moment où il appuie sur le bouton « on » de la caméra, pouf, j'ai vu Platini qui s'est mis à sourire, et je me suis dit, bah voilà, c'est ça aussi, interroger des gens connus, ils savent qu'il faut être bien au moment de l'interview, et ils sont complètement autrement par ailleurs. Donc ils sont pas tous comme ça, j'ai rencontré des gens super sympas, très connus, mais on a aussi parfois ces petites anecdotes qui nous disent, oui, bon, je préférerais rencontrer quelqu'un de plus sympa.
Avez-vous déjà exercé votre métier dans un pays en guerre ?
Alors moi, oui, j'étais en Afghanistan pendant l'occupation des talibans, c'était en 96. J'ai fait 5 reportages, 26 minutes et 4 reportages pour un magazine du monde rural à France 3 à Paris. Et donc on a été en situation de guerre puisqu'on est monté, on a été la dernière équipe occidentale à filmer les Bouddhas de Bamiyan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Bouddhas de Bamiyan. Bouddha de Bamiyan, c'était des immenses statues taillées dans la roche. Elles faisaient 30-40 mètres de haut. Il y en avait 4, je me souviens, à peu près. Et donc, on était arrivés à cet endroit-là. C'était le bout du monde. C'est-à-dire qu'on avait fait 3 jours de voiture. On était passé par des checkpoints, dans des zones de conflit et des zones interdites. On avait eu parfois un peu peur, parfois pas. Et puis on était arrivé là et on a été les derniers à filmer ces Bouddhas de Bamiyan. C'était incroyable, il y avait des militaires à l'intérieur et c'était une immense montagne. C'est une falaise et vous aviez des immenses Bouddhas filmés dedans. Et en fait, quelques temps après, je crois 1 ou 2 ans après, je ne sais plus exactement à quelle époque, peut-être en 2000, les talibans ont décidé de les détruire. Et donc on avait été les premiers à les refilmer depuis 1970 parce que personne n'était monté là-haut et on a été les derniers à la filmer encore debout. Voilà, donc c'était un sujet qu'on avait fait pour le magazine Montagne, qui était un magazine sur France 3, qui était diffusé nationalement et qui parlait de montagne. Et on avait raconté comment on avait suivi un convoi humanitaire qui amenait du blé tout en haut du côté de Bamiyan. Et après, on était allé à Bandiamir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bandiamir. Bandiamir, c'est, je pense, le paysage le plus beau qui m'était donné de voir. Alors, peut-être aussi parce que c'était un endroit où il n'y avait personne. C'était un endroit dangereux. Donc, peut-être que ça augmente aussi le sentiment que l'on a. Mais c'est 7 lacs qui se jettent les uns dans les autres. Et chaque lac a une couleur différente. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude. Et alors, pour parler de littérature, si vous avez l'occasion, lisez Les Cavaliers de Kessel. Kessel était aussi journaliste. Et Les Cavaliers de Kessel racontent l'histoire d'un homme, d'un Afghan, qui a participé à une compétition de chevaux particulière là-bas, qui s'appelle Boustaki, si je me souviens bien, et qui est blessé, qui retourne jusqu'au lac de Bandiamir. Et donc on a suivi cette piste-là, et voilà, c'était mon passage dans un pays en guerre.
Ok.
Sur les traces de Kessel. Alors moi, je n'ai pas suivi de conflit, j'ai juste été présent lors d'un attentat en Irlande du Nord. J'étais là pour une radio et c'était en fait un attentat, le conflit entre l'Irlande du Nord et les Britanniques à l'époque. Et donc il y avait une procession d'orangistes et ça s'est passé à proximité d'un cimetière. Et donc on était plusieurs journalistes européens à être là, à suivre cette procession. Et effectivement, il y a eu des coups de feu et des grenades qui ont été lancées. Certains ont été blessés très, très, très légèrement. De mes confrères, moi non, j'étais à l'arrière, mais effectivement c'était c'est le seul, bon c'était pas un conflit, mais c'était une zone de tension entre politiques. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup apaisé parce qu'il y a eu des accords signés avec les groupes. Mais l'Irlande du Nord, c'était très mouvementé à l'époque.
Ce qui est important, c'est quand on est dans ces moments-là, toi, à ce moment-là, on a l'impression d'être au bon endroit. C'est-à-dire le moment où on peut parler des choses, on peut dire, on se dit... Ben là, c'est bien que je sois là parce que je peux raconter des choses aux autres. Je peux te dire, je peux témoigner. Et on a une sensation d'être vraiment utile. Je pense que si on a eu envie de faire ce métier aussi, c'est parce qu'à un moment, on voulait se sentir utile et dénoncer quand il fallait dénoncer, témoigner quand il fallait témoigner. Et quand vous êtes dans des pays en guerre comme ça, vous êtes quasiment les seuls à pouvoir y être parce que vous êtes un peu en sécurité, parce que vous avez fait ce qu'il faut pour. Et ben tout d'un coup, vous avez l'impression d'être à la bonne place, à la juste place.
Et avez-vous déjà regretté ce métier ?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un vrai choix, comme disait Sylvain. Je pense qu'on a envie d'être... C'est un métier qui nous anime parce qu'on est, au cœur de ce qui se passe, de l'événement. Alors parfois des grands, des tout petits événements microscopiques, mais toi d'être là ce matin, de vous donner envie de peut-être... J'en sais rien, peut-être parmi vous, il y en aura peut-être qui auront envie de faire ce métier-là, mais je trouve ça, c'est notre rôle. Vous voyez, c'est un peu comme un enseignant. Un enseignant transmet, un journaliste transmet une information... Un enseignant transmet un savoir et ça c'est un travail aussi avec les gens et c'est une matière qui c'est quelque chose d'important. Moi j'aurais pas pu faire un métier. Je pense que la nature humaine m'a toujours plus intéressé que voilà des choses inertes. Donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Non, j'ai jamais regretté moi.
Ok.
Moi je pense même que si je devais le refaire, je le referais totalement. La seule chose, c'est que j'aurais peur de le refaire aujourd'hui, parce que les techniques évoluent très très vite, le monde politique évolue très très vite, le monde sociétal évolue très très vite, et que je ne sais pas quelle pourrait être ma place dans 10 ans en tant que journaliste. Voilà, c'est plus ça. J'aurais très envie de le faire. Est-ce que je me sentirais suffisamment fort pour le faire ? Je ne sais pas. Ça m'inquiète un petit peu, toutes ces évolutions technologiques, on en parlera peut-être après. Mais c'est vrai qu'on est dans une période charnière avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devant une grande inconnue. Inconnue politique, inconnue technologique et inconnue sociétale.
Et en même temps, il y a eu... des révolutions à tout, l'arrivée de l'imprimerie, l'arrivée de la presse papier. C'est des métiers qui ont toujours été obligés de se remettre en question. Mais là, comme le disait Sylvain, c'est une révolution qui est multifactorielle et effectivement politique. Et l'indépendance, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'indépendance des médias, c'est important. Et je pense que dans des grands pays, c'est important d'avoir des médias indépendants et d'avoir des médias tout court. Il y a des pays où il n'y a pas tout ça.
C'est aussi un peu pour ça qu'on vient. C'est aussi pour rappeler à tout le monde que si vous voulez avoir de l'information, il faut qu'il y ait des journalistes et que c'est important et que ce n'est pas forcément que Facebook qui peut vous amener de l'information, que les réseaux sociaux, TikTok. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on rappelle à tout le monde qu'à un moment, avoir quelqu'un à qui on dise « Ok, on te fait confiance pour que tu nous dises ou que tu essayes de nous dire la vérité », c'est extrêmement important pour vivre dans un pays où on est libre.
Avez-vous peur des avancées des IA, technologies, etc. ? Pensez-vous qu'elles menacent fortement votre métier ?
Je pense déjà qu'il ne faut pas avoir peur. Elles sont là, donc il va falloir s'en emparer, bien au contraire. Et puis je pense que toute nouveauté, effectivement, on se pose des questions. L'intelligence artificielle, c'est une évolution technologique qui nous amène à nous remettre en question sur la façon, effectivement, de produire de l'information. Je pense que ce qui est important, surtout, c'est de comprendre comment ça fonctionne et ce pourquoi elle est là. C'est vrai que si on se laisse embarquer sans essayer de voir pourquoi elle est là, je pense qu'il y a des risques, oui. Mais comme toute avancée technologique. Peur, non. Moi, je pense que toute époque, il y a eu des évolutions technologiques, des évolutions aussi dans la mentalité des sociétés. Donc il faut l'accepter, mais il faut pas être passif. C'est vrai. Il faut être voilà. Comme le disait Sylvain, si je devais commencer mon métier aujourd'hui, je vois nous on accueille régulièrement des jeunes journalistes. Et ils travaillent différemment de nous. On leur demande des choses différentes, même en presse audiovisuelle. Ils travaillent beaucoup plus sur le numérique, par exemple, chose qu'on ne faisait pas à notre époque du tout, puisqu'on a vu l'arrivée du net et tout ça avec Sylvain.
Moi, je suis absolument d'accord avec Laurent. Il ne faut pas en avoir peur. On n'a jamais peur des techniques. Les techniques, on peut les aborder, on peut les assimiler, on peut en faire quelque chose de bien. Moi, j'ai plus peur des gens qui s'en servent. J'ai plus peur de la société, comment elle évolue. J'ai plus peur de voir les gens qui perdent leur valeur. Je pense que c'est ça qui est intéressant et qui est dur à maintenir, c'est dire aux gens, restez des citoyens qui réfléchissent, des citoyens qui se positionnent. La technique, c'est pas très grave. La technique, on sait la gérer. On est passé du stylo au micro, on est passé du micro à la caméra, on est passé de la caméra à Internet, on passera avec l'IA, on passera aussi avec l'IA. Simplement, il faut que chacun sache ce qu'il y a derrière l'IA, que l'on sache quels sont les risques que ça peut avoir, et puis jouer avec. Les techniques, on a appris à jouer avec les drones aujourd'hui, on a appris à jouer avec plein de choses. C'est des choses qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'aller plus vite. C'est aussi ça important, c'est de vous amener l'information plus tôt. Ça a le risque de donner des infos trop vite, mais ça, c'est notre boulot, c'est le boulot de la société et notre boulot à nous. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la technique. La technique, elle est juste un moyen.
Ah oui, complètement. Mais tout à l'heure, tu parlais de discernement, de pouvoir de réflexion. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel de ne pas faire confiance qu'à un seul média ou un seul médium. Par exemple, je sais que vous avez tous des portables avec des applications sur lesquelles vous allez tous, ce qui est très bien, mais il faut être très, très, très vigilant avec ça. Et donc pour ça, pour avoir un esprit critique, continuer à avoir un esprit critique et ne pas regarder que France Télévisions ou n'écouter que France Culture, mais comme je parle de moi parce que je suis un peu de ce côté-là, voilà, je choisis ce que j'écoute. Mais c'est aussi bien d'aller voir des choses sur lesquelles, de temps en temps, je m'impose d'aller voir des médias que je n'ai pas envie d'entendre. Savoir ce qui s'y dit aussi. Parce que même si on n'a pas les mêmes idées, c'est important de savoir pourquoi des gens s'intéressent à ces propos, s'intéressent à ces commentaires, et ne pas tomber dans la facilité, toujours. Parce que c'est compliqué. Hein. C'est ça, c'est rester fidèle à ses... Enfin, fidèle, non, mais de ne pas avoir d'autres objets que ce que l'on désire aussi. Vous voyez, c'est d'aller, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en gros, c'est d'aller vers des choses qui sont pas naturelles pour nous forcément.
Ouais, je crois qu'il y a vraiment cette très.
Et l'IA, c'est un peu ça le danger de l'IA. Si...
Cet élément est extrêmement important, c'est-à-dire que si j'écoute que les gens qui pensent comme moi, je peux pas penser autrement. Donc quand Laurent dit bah, il faut aller voir d'autres journaux, d'aller voir d'autres sources d'informations, c'est de dire je veux savoir ce que tout le monde pense. Et après, je peux me faire une idée. Si je suis sur mon groupe Facebook ou si je suis sur mon groupe TikTok qui m'amène toujours les mêmes infos, j'ai l'impression que le monde est ainsi. Et c'est valable pour l'IA aussi. L'IA est un bon moyen, il n'y a pas de souci. Mais c'est pareil pour les journalistes. Vous avez des journalistes honnêtes et des journalistes pas honnêtes. Il ne faut pas non plus tout croire et tout penser qu'on est au-delà de toute critique. L'IA peut se tromper. Moi, j'ai un exemple précis. La dernière fois, je demandais pourquoi la salse pareille était utilisée dans les bandes dessinées. Vous savez, la salse pareille, c'est ce que mangent les schtroumpfs. Et je demande à l'IA, tiens, dis-moi pourquoi on utilise ça. Et elle me dit, mais parce que ça rentre dans la formule de la potion magique d'Astérix. Et je lui dis, t'es sûr ? C'est pas plutôt Peyo et les schtroumpfs ? Ah oui, je me suis trompé. Donc je dis, c'est quand même gros la faute. Voilà, donc elle s'est excusée. J'ai l'impression de lui avoir parlé comme à un être humain. Mais voilà, c'est pas parce que c'est l'IA qu'elle est forcément... Elle a toujours raison. Deux, trois fois, je suis tombé sur des choses complètement aberrantes. Je lui ai posé une question sur un film. Elle m'a donné le mauvais réalisateur, la mauvaise année de sortie. Donc voilà, c'est juste se dire que ce soit l'IA, il faut juste vous dire que l'IA, c'est intéressant, mais que c'est pas non plus le bon Dieu, quoi. Alors il faut savoir poser les bonnes questions et surtout se dire « je vérifie ». J'essaie d'avoir une deuxième source différente.
À quel âge avez-vous su que c'est ce métier que vous voudriez faire plus tard ?
Alors moi, c'est un peu particulier. Moi, je voulais être écrivain. J'adorais écrire, mais j'écrivais pas très bien. Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que je serais peut-être pas écrivain. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de vivre de ma plume. Et puis, je me suis dit que le journalisme, c'était pas mal. Donc, il y a eu ce premier élément-là qui m'a poussé vers le journalisme. Le deuxième, c'est que... Je crois que j'avais un peu envie d'être chevalier. C'était l'idée que je m'en faisais. C'était un peu une idée un peu romantique, mais je me disais, le chevalier, c'est celui qui vit en aide à l'orphelin et à la veuve et à l'orphelin. Et je crois qu'il y avait aussi ce côté-là, c'est-à-dire que j'avais envie de servir aux gens qui n'avaient pas la parole. Voilà ce qui m'a poussé à aller vers le journalisme.
Moi, j'avais 15-16 ans quand j'ai voulu faire ce métier-là. Ça s'est venu assez vite aussi. Voilà. En commençant à lire des journaux, puisque mes parents, j'avais eu la chance d'avoir de temps en temps des journaux nationaux que ma maman m'amenait. Elle était institutrice, elle remontait Le Monde, Libé, voilà. Et moi, j'achetais Harakiri parce que ça me faisait plus marrer.
C'était strange.
On imagine que dans ce métier, il y a des méthodes spéciales, lesquelles ?
Alors, les méthodes spéciales, là, tu veux nous faire passer pour des agents secrets ? Non, non, on n'a pas. Dans l'enquête, ou dans certains domaines, par exemple, si tu fais du travail sur le fait divers, c'est pas la même chose que de travailler avec des artistes dans le monde de la culture ou dans le monde du sport. Par exemple, dans le monde du sport, il faut être très, très proche. Souvent, le journaliste sportif, d'ailleurs, c'est un peu un reproche qu'on leur fait. Ils sont très proches du monde dans lequel ils travaillent. Ils ne font que ça. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Les grandes rédactions nationales sont scindées en services. Tu as un service sport, tu as des services société, services étrangers, services culture et faits divers. Moi, j'ai travaillé dans un service d'enquête et d'investigation faits divers. Et oui, là, il y a des méthodes particulières pour obtenir des informations. Donc, il y a effectivement une... Il faut établir des liens de confiance avec tes interlocuteurs, mais c'est vrai aussi dans tous les domaines, dans le monde du sport, dans le monde de la culture. Tout le monde se méfie de tout le monde aujourd'hui, et d'autant plus des médias, parce que les médias, effectivement, comme vous avez pu le constater, on est maintenant très nombreux. Moi, nous, quand on a commencé à travailler en télé, il y avait trois chaînes en France. Il y avait même pas M6, même pas Canal+. Il y avait, à l'époque, on appelait ça même pas TF1, la première. Il y avait Antenne 2 et la 3. M6 est arrivé après, Canal, voilà, il y a trois chaînes. Aujourd'hui, vous allumez votre télé, vous avez 350 chaînes avec en plus les box et compagnie. Et donc, ça a beaucoup évolué. Mais les méthodes de travail, oui, elles sont les techniques de travail. Suivant, vous travaillez aussi dans l'audiovisuel, en presse écrite ou sur le net, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc, on a des outils aussi, les outils qui nous... voilà, Sylvain ?
Oui, je crois que c'est une très très bonne question. Je pense que quand tu es journaliste, ce qu'il faut, c'est que tu aies l'info. Et c'est à la fois la chance et le risque. C'est-à-dire que pour avoir l'info, il faut que tu sois intégré dans le domaine dans lequel tu vas enquêter. Donc si tu enquêtes sur la politique, il faut que tu approches des politiques. Si tu enquêtes sur des faits divers, il faut que tu approches de la police, des enquêteurs. Et ça, c'est pas facile. Parce que l'enquêteur, il va pas forcément te donner l'information. C'est quelque chose que tu crées, un rapport de confiance que tu crées sur le long terme. Il sait que tu ne vas pas dire des bêtises, donc il peut te faire confiance. Mais il est aussi là pour te dire, si je te dis de ne pas en parler, promets-moi que tu n'en parleras pas. Et ça, c'est souvent compliqué.
Mais c'est aussi une information.
Donc, si tu veux, il faut réussir à être honnête. Pour moi, l'honnêteté, c'est essentiel pour le journaliste. Ne pas avoir d'opinion, c'est juste être honnête. C'est se dire, voilà, je vais le faire avec honnêteté. Et donc, il faut réussir à être sur ce fil-là, où tu as des gens qui vont accepter de te parler. Moi, je me souviens que au moment où il y a eu les attentats, on était ensemble d'ailleurs, au moment où on a eu les attentats à Trèbes, j'ai ce que j'appelle, moi, une gorge profonde. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un à la police qui m'appelle en me disant, écoute, va là-bas, il y a un truc très grave qui se passe. Il est 10h. À midi, on fait un direct avec nos correspondants de Carcassonne à Trèbes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les attentats de Trèbes, ça vous évoque quelque chose ?
Dans un supermarché.
Des attentats...
Prises d'otages.
Des prises d'otages où ils avaient tué trois personnes, des légionnaires.
Et surtout, le colonel de gendarmerie, Arnaud Beltran, qui est aujourd'hui...
Donc on est capable de donner l'information à midi parce que j'ai quelqu'un qui me fait confiance et qui me dit « vas-y ». Mais pour que j'y aille, il faut que j'ai totalement confiance en lui. Parce que ça demande d'envoyer un DSNG, enfin un moyen direct, ça. Mais je savais que s'il me disait ça, je pouvais y aller. Donc ça, c'est important d'avoir ces sources-là.
Ce qu'on appelle le carnet d'adresse dans notre métier, on n'en a pas parlé, mais le carnet d'adresse est très important. Au début, quand on commence, on n'en a pas. Et puis, après un certain moment, on a donc des informateurs, des indices, un peu comme tout le monde. Hein, comme on a des... c'est notre façon de travailler. Ça, c'est, voilà, si tu cherchais tout à l'heure pour répondre à ta question, voilà, le carnet d'adresse est très, très important dans le métier. Un journaliste sans carnet d'adresse, c'est soit un journaliste qui se...
C'est pas un journaliste.
Oui, il ne s'intéresse pas. Ouais. Là, par exemple, je viens ici, si ça se trouve, je vais repartir avec les coordonnées du directeur de la radio de Sommières parce que j'ai peut-être envie de faire un sujet sur la radio de Sommières. Donc voilà, donc, c'est aussi mon métier de savoir... De savoir prendre des infos, discuter avec les gens, ça donnera ou pas un sujet, mais voilà, c'est très important ça.
et le faire avec honnêteté, c'est-à-dire que rester là où vous êtes. Ce n'est pas parce que vous connaissez les hommes politiques que vous allez être copain avec les hommes politiques. Vous allez avoir des relations qui peuvent être amicales, mais où chacun doit rester dans son rôle à lui. Et ce n'est pas toujours facile.
Si ça ne vous dérange pas trop, quelle était la fourchette de vos salaires ?
Non, ça ne dérange pas du tout. En gros, un journaliste à France Télévisions commence à peu près à 2000 euros par mois. Et on va tourner en fin de carrière, on sera entre 4000 et 4500 euros, je dirais un truc comme ça, peut-être un peu plus.
Oui, suivant les responsabilités. Un rédacteur en chef termine avec... c'est une charge. Rédacteur en chef, c'est animer, c'est c'est avoir une ligne éditoriale pour sa rédaction, c'est s'occuper de la vie de sa rédaction, c'est d'avoir des réunions très souvent avec des directions. Donc un rédacteur en chef peut être un peu mieux payé, mais maintenant, depuis quelques années, ils essaient d'avoir dans les filières journalistes, parce qu'on a on est grand reporter l'un et l'autre avec Sylvain, donc on a des évolutions. C'est un grand reporter, c'est pas lié à vos états de service. Alors ça l'était à une époque, on parlait d'un grand reporter quand on parlait de Robert Capa, ou de Joseph Kessel, qui étaient des gens qui allaient chercher l'info à l'autre bout du monde. Mais grand reporter dans les rédactions, maintenant c'est souvent lié à votre ancienneté, et donc en fonction de ça, comme dans n'importe quel métier, vous avez des grades et vous gagnez un peu plus. Donc effectivement, on démarre à un jeune journaliste chez nous démarre en CDD, alors en statutaire aux alentours de 2000 euros et on termine entre 4000, 5, suivant 5000, voilà, c'est ça, suivant les... Mais c'est, comme je vous le disais, moi je ne me plains pas de mon niveau de revenu, mais on ne fait pas ça pour l'argent. On est bien payé pour ce que l'on fait, on fait pas mal d'heures.
Oui, mais pour vous dire, une journée type, on commençait à 7h, on finissait à 20h, quoi.
Oui. Un rédacteur en chef, c'est ça. Ils ont des amplitudes horaires très importantes.
Et si, malheureusement, il y a une inondation à Sommières, au lycée, au collège, on vous appelle à 3h du matin et on vous dit « Ok, il y a une inondation, il faut y aller ».
Oui, vous êtes dérangé assez souvent. Mais c'est vrai que on le sait, hein, ça fait partie du métier, comme un médecin urgentiste qui peut être appelé en pleine nuit ou un médecin qui doit accoucher des gens. C'est le métier qui veut ça.
Donc, alors ça arrive pas tous les jours, non ?
Non, bien sûr que non.
Et donc ça veut dire que vous êtes un peu d'astreinte 24 heures sur 24 ?
Alors c'est un peu particulier à France 3. Parce que France 3, on entre un peu dans le détail, mais globalement c'est énormément de stations différentes. Et ça coûterait très très cher de mettre quelqu'un d'astreinte tous les jours. Donc ça se fait dans les grandes rédactions. Quand vous êtes à France 2, vous avez en effet quelqu'un qui est là toute la nuit, qui surveille les actualités. Dans les régions, ce n'est pas le cas. En général, il y a un gardien à la station. Il va avoir des coups de fil. Alors quand il y a par exemple une inondation, on le sait avant, parce que le soir, on appelle un service qui s'occupe de tout ça et qui nous dit ce soir, cette nuit, ça peut peut-être péter à tel endroit, à tel moment. Donc on va rester en vigilance, on va regarder les cartes, on va les appeler éventuellement, on va suivre. Souvent, c'est quelqu'un qui appelle la station et là, vous avez en effet tous les soirs un rédacteur en chef qui garde son numéro, son téléphone allumé et qui est susceptible d'être appelé. Et lui, ensuite, il va définir quelle est l'importance de l'actualité et va réveiller un journaliste et un caméraman pour y aller ou pas.
Et il y a des horaires, par exemple, cette équipe qui est d'astreinte, c'est une équipe qui a été décalée. Généralement, c'est une équipe qui a commencé un peu plus tard dans la journée, ce qu'on appelle ça un 13-23, par exemple. Un 13-23, c'est que vous tournez un sujet dans cette plage horaire, mais si jamais il se passe quelque chose à 22h30 ou à 23h, n'importe quoi, un fait divers, une actualité, quelle qu'elle soit, c'est vous qui êtes effectivement missionné. Donc généralement, alors on ne part pas chez soi avec la caméra, parce que comme le disait Sylvain, c'est des coups, c'est... Mais il y a des rédactions où moi, ça m'est arrivé de rentrer chez moi avec la caméra parce que voilà, s'il y avait pour être plus rapidement opérationnel, si jamais il y avait quelque chose.
Oui, dans le cas d'une inondation, par exemple, on sait le soir qu'il va y avoir un effet Cévenol, donc on appelle le journaliste qui travaille.
Il y a des gens.
3 heures, voilà. On lui dit garde la caméra, tiens-toi prêt, on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Mais après, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas en actualité régionale, on a rarement de l'actualité entre minuit et 4 heures du matin.
C'est occasionnel.
Exactement.
Vous avez tous deux connu des expériences de guerre dans des situations particulières de travail. Vous avez tous deux été limités dans votre liberté d'expression ou vous avez eu des difficultés à l'exercer ?
On pense par exemple à la censure.
Alors c'est une très très bonne question. Et la question est très très difficile. En fait, alors quand vous êtes dans des pays en guerre, c'est un peu particulier parce que là, vous avez des endroits où, de toute manière, on vous met une kalachnikov devant vous, vous n'y allez pas, quoi. Donc là, la question se pose un peu différemment. Au quotidien, c'est très, très compliqué de savoir s'il y a une censure. Non, il n'y a pas de censure en tant que telle dans les rédactions aujourd'hui en France, chez nous en tout cas. La censure, c'est ce que vous avez le droit de dire. C'est-à-dire que quand vous accusez quelqu'un, d'un crime qu'il n'a pas commis, là, vous êtes susceptible de passer devant la justice parce que vous n'avez pas le droit d'accuser quelqu'un à tort. Donc il y a des règles qui sont définies par la loi que l'on peut pas, auxquelles on ne peut pas transiger. En revanche, est-ce que vous avez un préfet qui vous appelle en disant « je veux absolument pas que vous nous parliez de ça » Je pense que c'est depuis très longtemps, ce n'est plus le cas du tout. On parle un peu de tout ce qu'on veut. Après, la grosse difficulté, mais là tu me corrigeras si je me trompe, Laurent, la grosse difficulté pour un journaliste, c'est de connaître la vérité. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, il faut que ce soit vrai. Et parfois, c'est compliqué d'avoir la certitude que ce que vous allez dire est vrai. Et donc, il n'y a pas une autocensure, mais vous dites « tant que je n'ai pas l'information certaine vérifiée 3 fois, je ne peux pas la donner ». Je me souviens très bien, à un moment, j'étais sur France Info, sur le site internet, et il y avait une actualité, tout le monde avait donné l'information, et il y avait un commentaire qui disait « mais pourquoi vous n'en avez pas encore parlé, vous devriez être à la pointe ». Et la journaliste l'avait répondu, mais parce que pour l'instant, on attend encore confirmation de la réalité de l'information. Voilà, ça, je trouve que c'est cette limitation-là qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, ça, peut-être que demain, avec une dictature, avec autre chose, on sera peut-être soumis à ça. Aujourd'hui, on ne l'est pas.
Ce que vient d'évoquer Sylvain, moi, je n'appellerais pas ça de la censure, en revanche. C'est plutôt du professionnalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des informations qu'on met du temps à donner, à divulguer, parce qu'on n'a pas toutes les garanties toutes les assurances de la véracité de ce que l'on veut avancer. Le poids de la censure, moi, je ne l'ai jamais ressenti dans les rédactions où j'ai travaillé. J'ai travaillé sur du fait divers, qui est une matière un peu sensible. Souvent, le fait divers, quand on travaille sur des meurtres, sur des détournements de fonds, vous êtes des pressions de l'extérieur, pas de ma rédaction, des pressions d'avocats. Oui, des avocats qui me parlent et qui me disent « bon là, ça peut arriver, mais il peut faire ce qu'il veut hein », ou d'hommes politiques qui peuvent nous menacer, mais nous ça c'est l'autre tous les journalistes quasiment, c'est quand on travaille sur des matières un peu sensibles. Mais la plus grande censure, c'est la nôtre. Tu as parlé d'autocensure. Moi, il m'est arrivé parfois de me dire « je ne peux pas dire ça ». Pourquoi je ne peux pas dire ça ? Qu'est-ce qui m'interdit ? Alors si, ce qui peut m'interdire, c'est effectivement le fait de ne pas avoir toutes les garanties, ce que vient de dire Sylvain. Ça, oui. Mais après, je suis dans un pays libre, mais je sais que je vais déranger. Alors moi, j'ai eu une expérience un peu malheureuse il y a quelques années sur la problématique proche-orientale avec le conflit israélo-palestinien. Et oui, j'ai touché du doigt un sujet sur lequel on ne pouvait pas dire tout ce qu'on voulait. Et ma direction nationale me l'a fait comprendre. Voyez. Mais le sujet était diffusé. C'était Marc qui était là, Marc de Glis, je me souviens. Mais bon, c'était des engagements. Alors oui, peut-être que c'était des engagements, mais un journaliste, il est aussi engagé. Voilà, je suis comme vous, hein, j'ai des convictions.
Et puis, il y a d'autres moments où on se pose la question. On a eu pendant une période, tous les nouvel an, dans toutes les villes quasiment, il y avait les voitures qui brûlaient. C'était le jeu dans les banlieues, on brûlait les voitures. Et donc, au début, on allait parce que c'était de l'information. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte que plus on y allait, plus il y en avait qui brûlaient. Donc, on se disait, c'est des gens qui allument les voitures pour que les journalistes viennent filmer les voitures, pour qu'ils passent à la télévision. Et donc, à un moment, on a arrêté de les passer, on a arrêté d'aller là-bas parce qu'on se disait, on devient acteur. C'est-à-dire que les gens brûlent les voitures parce qu'on va venir les filmer. Donc, est-ce qu'on est encore obligé d'aller les filmer ? Donc, ces questions-là, alors c'est une question à un petit niveau, mais c'est une question qui se pose souvent. C'est, est-ce que je vais sur une manifestation alors que je sais que si je ne viens pas, la manifestation n'a pas lieu ? Enfin, on a été confrontés à ces éléments-là. C'est-à-dire, demain, on va faire une manifestation, on ne pourra pas venir. Ah bon, alors on ne la fait pas. Bon, mais est-ce qu'on est, nous, là pour que les gens manifestent ou pour raconter que des gens veulent manifester ? Donc, leur disait, si vous manifestez, on viendra, on ne viendra pas. Mais vous ne pouvez pas manifester en se disant, si je manifeste, on ne sera que 3, mais il y aura les journalistes qui viennent. Et s'ils ne viennent pas, on va appeler les journalistes en disant, mais comment ça, vous n'êtes pas venus ? Donc voilà, c'est aussi des questions qui se posent. Est-ce que je réponds à ta question ?
Très bonne question, en tout cas.
Est-ce que vous connaissez des personnes célèbres chez France 3 ?
Moi, je connais Sylvain Jégard, à côté de moi.
Moi, Laurent Boumel. Oui, on les connaît parce que bon, moi, en tant que rédacteur en chef, j'avais l'occasion d'aller à Paris et on avait toujours des grands raouts en début d'année où on présentait toutes les émissions, donc tout le monde était là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je me souviens, bah, Laurent Baumel, quand il présentait le journal, c'était quelqu'un d'extrêmement connu dans la région. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Voilà, moi, quand je présentais, j'étais plus connu. Maintenant, je ne suis plus.
C'est intéressant ce que dit Sylvain, c'est que tout ça est très, très éphémère. C'est vrai que c'est un miroir, la télévision, vos écrans. Le jour où vous arrêtez, ou même un sportif, un jour où, regardez, Rafael Nadal et Djokovic. Dont on a parlé depuis 20 ans. Le jour où ils vont arrêter, je ne dis pas qu'ils vont disparaître hein, comme ça du jour au lendemain du paysage médiatique, mais ça y est, il y en a un autre. Il y a Yannick Sinner qui a pris le pas sur Nadal. On ne parle que de lui. C'est la grande nouvelle star qui arrive. Là. Donc oui, moi, j'étais fan de Björn Borg. Vous connaissez Björn Borg ?
Voilà.
C'était juste, pour moi, le McEnroe, Connors. Mais c'est ma génération. C'est
Eddie Merckx.
Eddie Merckx, des tennismans, un cycliste merveilleux. Donc, et pareil pour la télé. Vous avez moi, j'ai été fan à la télé d'un gars qui s'appelait Yves Mourouzi. Ah oui. Vous connaissez Yves Mourouzi ? C'est un présentateur qui a révolutionné la présentation à la télévision. Bon, il est mort il y a quelques années maintenant. Il était marié à une fille du Sud. D'ailleurs, il s'était marié aux arènes de Nîmes. Quelqu'un qui était très extraverti, très extravagant. J'ai travaillé avec des gens, par exemple, Élise Jussé. Bon, ça, vous la connaissez, Élise Jussé ? Peut-être un peu. Elle présente Envoyé spécial, Cache Investigation. Voilà, c'est une fille que j'aime beaucoup et qui est une présentatrice qui est connue. Voilà. Mais Élise, le jour où elle arrêtera, elle le sait. Et puis de toute façon, Élise, elle ne fait pas ça pour ça. Elle fait ça parce qu'elle a une passion dans son métier. Alors elle, c'est dénoncer, d'attaquer. Voilà. Mais oui, pour répondre à ta question, Naïm, oui, on en connaît forcément, mais c'est très éphémère tout ça.
Hein.
Et heureusement d'ailleurs.
Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire, il faut bien imaginer que les gens connus, ils sont connus parce que les gens les idolâtrent. Mais globalement, c'est des gens comme vous et moi. Moi, je disais toujours à mes enfants qui étaient là devant une star en disant ouais, « tu te rends pas compte ». Je disais « mais tu sais, il va aux toilettes exactement comme toi. Il descend son pantalon, il fait pipi. » Et c'est vrai que ça réduit la... C'est pas des dieux, c'est des gens comme vous et moi qui vont disparaître. Et voilà, donc...
Mais il faut reconnaître quand même que la télévision, l'image, oui... Moins la radio, mais regardez des écrivains comme Joseph Kessel. Moi, je suis un fan de Joseph Kessel. Qu'est-ce que j'aurais aimé de. Tout à l'heure, on a évoqué le cavalier, mais qu'est-ce que j'aurais aimé le rencontrer en personne ? J'ai travaillé dans un titre de presse qui s'appelle Le Nouveau Détective, fondé par Joseph Kessel et son frère, et Gaston Gallimard. Le Nouveau Détective ne traite que du fait divers, une matière très scabreuse. Hein, c'est parfois pas toujours évident. On a fêté le centenaire il y a quelques années, et Kessel a fondé ce journal. Qui était pourtant un journal. Moi, quand ma mère, je lui dis que je vais travailler, que j'ai mon premier CDI, je l'ai eu là. Je n'ai pas eu à France Inter. Elle avait honte. Elle me dit, mais comment tu vas travailler dans ce torchon ? Mais ça a été pour moi une révélation. J'ai appris le métier dans ce journal. J'ai rencontré des énormes reporters. Alors oui, effectivement, le fait divers, ce n'est pas toujours très gai, ce n'est pas toujours très beau, mais c'est la société telle qu'est. Et Kessel adorait ça. Et Kessel, pour moi, c'est... Voilà une grande star. Voilà, Joseph Kessel.
J'ai une question qu'on a abordée en cours. C'est au niveau du soudoiement chez les journalistes. Est-ce que c'est assez rare ou ça vous est arrivé plusieurs fois de vous faire soudoyer pour, par exemple, mettre en valeur quelqu'un ?
Alors, c'est une bonne question aussi. Non, mais il faut être très vigilant par rapport à ça. Il n'y a pas si longtemps, moi, je tourne un sujet sur les difficultés de la viticulture. Quand vous allez chez un vigneron, il nous demande bah, « partez avec une bouteille de vin ». Une bouteille de vin, c'est pas avec ça que je vais être acheté, mais ou m'inviter à déjeuner, ça de temps en temps, ça peut partir d'un bon sentiment, mais non, il faut pas accepter parce que effectivement, ce que disait Sylvain, c'est que c'est difficile. Les hommes politiques qui vous invitent aussi à manger, des choses comme ça. Alors c'est pas des grands soudoiements. Il y a eu des histoires, hein, des scandales dans la. Bien sûr, il y en a de journalistes achetés. On en connaît des journalistes célèbres d'ailleurs. Bien sûr, et parce que c'est sensible. On sait très bien, je parlais de quatrième pouvoir, la presse a énormément de pouvoir. Donc les gens qui tentent de vous approcher et de soulayer, il y en a bien sûr, mais c'est à nous de faire la part des choses et surtout d'être très ferme là-dessus.
Moi j'ai un exemple très simple là-dessus. En rédaction, on avait très souvent l'aéroport de Montpellier qui ouvrait une nouvelle destination. Et qui disait bah, « Sylvain, ça ne t'intéresse pas d'aller, on passe un week-end à Oslo, voilà, tout frais payé. » Je dis « Mais non, parce que moi, je ne ferai pas de sujet. Or, si tu m'invites, c'est pour que je fasse un sujet. Donc je vais te décevoir parce que je ne ferai pas le sujet, ou alors je le fais et je vais me sentir très très mal parce que j'aurai eu l'impression de le faire parce que j'étais invité. Donc c'est à la fois une manière aussi de vous respecter vous. C'est-à-dire que si vous avez une fois touché à ça, vous n'êtes plus respecté par personne. Si vous dites à quelqu'un politique « ben non, je t'invite », et la prochaine fois, ce sera toi qui m'invitera, parce qu'on sera exactement à égalité. Non, parce que parfois, vous êtes obligé, et c'est important d'aller déjeuner avec les hommes politiques. Moi, j'ai déjeuné avec énormément d'hommes politiques, parce que vous avez de l'info. Mais il faut juste rester au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que cet homme politique rencontre un homme politique en disant « Non, mais il y a guerre, non, mais il n'y a aucun problème. Tu le payes à bouffer, tu l'as dans ta poche. » C'est la fin de votre métier.
Et la question est importante, parce que l'économie des groupes de presse est de plus en plus fragile. Donc, se faire voir proposer des voyages, des invitations, c'est fréquent parce qu'ils le savent, les industriels, les gens qui sont... Et vous n'êtes pas censé ignorer que la plupart des grands médias, beaucoup de grands médias, sont aux mains de grands, grands capitaines d'industrie. Monsieur Arnaud, par exemple, le patron d'LVMH, le grand groupe de luxe, possède des médias. On parle beaucoup d'un monsieur qui s'appelle Bolloré, Vincent Bolloré, qui possède des grands médias. L'indépendance de la presse, elle passe aussi par sa vitalité financière, sa vitalité économique. Donc nous, on est un groupe effectivement public, avec des ressources publiques, puisqu'elle est payée avec à travers un impôt, maintenant plus la redevance, puisqu'elle a été supprimée, mais à travers une fraction de l'impôt qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est ce qui nous permet, nous, d'exister et de payer effectivement un réseau de journalistes, mais pas que, hein, puisque ça permet aussi de faire vivre le cinéma, puisque France Télévisions est un finance du cinéma. Donc l'indépendance de la presse, elle passe par son indépendance économique. Vous avez un média comme Mediapart, créé par un grand journaliste qui s'appelle Edwy Plenel. Edwy Plenel refuse la publicité sur son média. Donc c'est vos contributions, il fait appel aux dons, donc les gens, c'est les lecteurs qui financent ce média, pour être indépendant et être impartial. Et nous, quand on travaille, oui, effectivement, de dénoncer comme le voyage dont vous parlez, Sylvain, c'est naturel, c'est normal. On ne doit pas accepter ce genre de choses. Parfois, on l'accepte parce que si on veut faire un reportage intéressant, on est, comme notre rédaction n'a pas les moyens de nous envoyer là-bas ou de nous payer, et ben c'est arrivé parfois de partir. Moi, je suis parti, par exemple, sur un voyage. Alors, le sport le fait beaucoup. Le FIS, vous connaissez le FIS à Montpellier tous, le Festival International des Sports de Rue. Ils développaient leur festival en Chine. Donc, on est allé avec eux en Chine, mais ils avaient accepté de nous financer une partie de nos billets. Mais nous, l'idée, c'était aussi de montrer, de voir comment ça se passait en Chine. Est-ce que tout n'était pas comme ils le souhaitaient? Et puis nous aussi, on voulait être un peu libre de dire ce qu'on voulait. Et le patron de ce festival m'avait dit « Mais Laurent, tu diras ce que tu veux. » C'était un peu particulier. J'étais relativement content des sujets que nous avions faits, qui étaient honnêtes. Mais la façon dont j'aurais préféré que ça soit ma société qui me paye mon billet d'avion, ma chambre d'hôtel, voilà. Mais c'était pas possible.
Et puis encore une fois, on est en train de vous parler de nous, on est dans un média public. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure à propos des milliardaires. Il y a 90% de la presse française qui est tenue par 11 milliardaires. Donc ta question de l'indépendance, elle est réelle et elle pose question. Parce que quand tu travailles pour un milliardaire, est-ce qu'il y a des choses que tu tais ou est-ce que tu dis tout ?
Est-ce que sur TF1, tu peux critiquer le groupe Bouygues ? Moi, j'ai des conflits.
Il existe vraiment cette absence d'indépendance. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut que la presse puisse vivre avec les gens qui achètent les journaux ou qui achètent l'information. Parce que c'est une sécurité. C'est-à-dire, c'est un moment où tu travailles pour la personne qui te paye. Si c'est le citoyen qui te paye, tu travailles pour le citoyen.
Et on peut critiquer l'État sur France Télévisions.
Bien sûr.
Si tu regardes nos sites d'information, nos journaux, on critique les représentants de l'État. Voilà. Et c'est pourtant l'État qui nous finance. Enfin, l'État, oui. Mais pour un milliardaire, c'est plus compliqué.
Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation.
Merci à vous.
Merci de votre accueil.